On revient sur le meurtre de la semaine dernière à l'hôtel Sépia à Sainte-Foy de la jeune fille de 22 ans, Marilyn. Marilyn.
Oui,
parce que j'ai vu, je pense qu'on a dit Marilyn un peu au début. En tout cas, peut-être moi, là, peut-être pas vous autres, mais c'est Marilyn, mm-hmm. Lévesque, oui. 22 ans, par Eustachio Galès. Alors, il y a toutes sortes de détails un peu qui commencent à circuler, mais on va attendre que ça se confirme ou tout ça concernant ce meurtre sordide qui s'est donc produit récemment. Mais on en sait déjà beaucoup sur le premier meurtre de Eustachio Galès. Parce que dans cette histoire-là, juste le meurtre à Sainte-Foy est déjà tragique, dramatique, mais ce qui révolte beaucoup de gens, hein, c'est ce qu'on entend ici et là, c'est que c'était pas la première fois. Il avait déjà tué, il y a une quinzaine d'années, sa conjointe. Alors, on remet beaucoup en question, on a fait le débat la semaine dernière, ça va se poursuivre, la libération conditionnelle, il était en semi-liberté depuis le mois de mars. Donc, il avait été condamné, pourquoi au départ, Elisabeth, il y a un documentaire qui a été fait, merci à nos auditeurs qui ont dit « Hey, ça a fait l'objet d'un documentaire à Canal D, oui. Le premier meurtre de Eustachio Galès. Alors, tu as visionné ça récemment. »
Oui, c'est la série « Un tueur si proche » que j'écoute vraiment.
C'est très beaucoup. Bon.
C'est très bon. Mais il y a eu plusieurs saisons, puis il y a eu plusieurs cas québécois qui ont été couverts. Puis celui-là, je ne l'avais jamais vu. Je n'avais jamais entendu
parler non plus.
Ouais. Ça peut arriver, là, des fois, on les manque une fois de temps en temps. Puis tu vois par la qualité de l'image que ça fait plusieurs années qu'il a été fait aussi le documentaire. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'un tueur si proche, ils vont parler à des gens autour du meurtrier et autour de la victime. Fait que ça donne énormément de contexte puis de renseignements autour du crime en tant que tel. Comment ils se sont rencontrés? C'était quoi la perception des gens face à cette relation-là? Alors, je l'ai écouté, le documentaire, au complet pour vous. Puis on va le partager sur la page Facebook de Bouchard en Père si vous voulez aller voir, mais je vous ai quand même sorti quelques extraits que j'ai trouvés pertinents. Je trouve que ça ajoute beaucoup sur qui était cet homme-là puis de quelle façon Chantal Deschênes s'est retrouvée entre les griffes de cet homme-là.
Et ça ajoute à la fameuse question, parce qu'au moment où il le libère, ils sont au courant de tout ça.
Eh oui, certainement.
Ça, c'est tout prouvé, démontré. Alors, ça rajoute encore à la question qui fait débat un peu partout. Comment se fait-il qu'il était dehors, sachant cela? Ben là, vous savez peut-être pas tout, mais vous allez l'apprendre.
Et d'ailleurs, ce qui est particulier, c'est que Chantal Deschênes, sa première victime, elle a deux filles. Et il y a une de ces deux filles qui a exactement l'âge de Marilyn Lévesque aujourd'hui. Fait que ça a dû être particulièrement difficile pour elle là, dans les derniers jours. Le premier extrait que je vais vous faire écouter, c'est sa sœur, Eustachio. Eux autres, ils prononcent Eustachio Galès dans
pourquoi
le.
Pourquoi son surnom, c'était Stack.
Exact.
C'est comme ça qu'il était connu dans le monde de la restauration à Québec.
Alors, j'ai mis cet extrait-là. C'est sa sœur qui parle de lui. Puis, on comprend comment il a fait son entrée à l'Hôtel Québec aussi, là où il a rencontré Chantal. Vous allez voir que sa sœur parle de lui à ce moment-là, avant le crime, comme étant quelqu'un de bien. Mais je vous ai pas mis ça pour glorifier le meurtrier ou pour dire à quel point c'est un bon gars. Au contraire, je veux juste vous montrer qu'il venait d'une famille qui était relativement normale. C'est pour ça. Un tueur si proche, en fait, le concept, c'est ça. C'est que c'est des gens qui commettent des crimes qui étaient au-dessus de tout soupçon. Alors, ça démontre vraiment bien dans le prochain extrait pourquoi les gens pensaient jamais qu'il ferait une affaire comme ça.
Eustachio est le benjamin d'une famille de 5 enfants. C'est un jeune homme sportif et de bon tempérament.
Il était très, très social, très drôle, très comique, très bon imitateur. Alors, dans un parti de famille, souvent, c'est lui qui était la personne qui nous faisait rire le plus. Et il adorait le monde, il adorait parler au monde. Il était très, très social.
Eustachio occupe un poste de directeur de réception dans un club de golf. Lorsqu'en octobre 2003, il a l'opportunité de réaliser un rêve.
Eustachio aimait beaucoup la restauration. Ça a toujours été sa passion. Son rêve était de n'avoir un jour. Et puis, c'est un très grand travaillant. Alors, son succès était quasi certain parce qu'il était très passionné dans ce qu'il faisait. Il se donnait toujours énormément.
Vous comprenez pourquoi on fait jouer ça, là, Élie le dit, là, c'est pour démontrer que les monstres, contrairement aux films, ils n'ont pas toujours des faces de monstres.
Oui.
Dans la vraie vie, ça ne paraît pas.
Exactement, c'est pour
alors,
ça. Là.
Ils peuvent être des monstres, ils peuvent être des psychopathes. Regarde, je ne suis pas un docteur là, pour donner le titre exact, là, mais ils peuvent être fous, ils peuvent être dangereux, mais ça ne paraît pas.
Oui, et le deuxième extrait que vous allez entendre, c'est celui que Eustachio Galès remplace à l'Hôtel Québec, parce qu'il a pris un poste à l'Hôtel Québec, c'est là qu'il a rencontré Chantal Deschênes. Celui qui allait remplacer, il s'appelle Serge. Et là, il formait dans son nouvel emploi et il parlait un petit peu des employés. Là, il dit, tu vas rencontrer telle personne et voici ma barmaid Chantal Deschênes. Et regardez bien comment Eustachio Galès voyait Chantal Deschênes à l'époque.
Et lui présente les employés, notamment Chantal.
Moi, je dis Chantal, c'est Chantal. C'est une Québécoise qui a du charme, qui est facilement approchable par les personnes qui veulent l'interpeller. Elle peut parler, elle peut discuter. C'est une femme qui est à l'écoute, qui peut écouter.
Bien qu'ils soient tous les deux sous le charme de Chantal, Serge et Eustachio ont une perception complètement différente de la jeune femme.
J'y avais décrit légèrement ce que Chantal était. Et il avait beaucoup de misère que Chantal, elle attirait les hommes. Mais j'ai dit, garde, j'ai dit, regarde-la. Elle est belle. Et en plus, elle est québécoise. J'ai dit, pour que tu comprennes ce que Chantal est, faudrait que tu comprennes c'est quoi une québécoise. Et si tu n'es pas prêt à accepter ces choses-là de ta barmaid, ben là, tu es à la mauvaise place.
Alors déjà, le monstre commençait à poindre un peu. La jalousie, possession, rivalité, ouais. Tu vois qu'il y avait déjà des indices.
Il sort pas avec encore, il la connaît pas, ouais. Là. C'est juste
déjà,
une employée. Là.
Déjà, il est jaloux.
Mais regardez bien comment une ancienne employée de bar, du bar en tant que telle, raconte pourquoi les autres employés aimaient pas pantoute Eustachio.
Certains employés du bar n'apprécient pas Eustachio.
Lui, la seule façon pour lui de se faire voir que lui, c'était le patron, c'était de contrôler son nom. Il rentrait là, lui, puis il disait, moi, je vais rentrer, je vais contrôler tous mes employés, c'est le même, ça va marcher. Ma façon, c'est la bonne. Il écoutait personne. Il faisait des changements qui étaient pas appropriés, mais c'était son idée. Elle était bonne, c'était son idée à lui.
Mais contrairement à quelques-uns de ses collègues, Chantal, elle, est attirée par le charisme de Eustachio.
Et s'en est suivi une relation amoureuse, ouais, entre les deux qui a duré un petit peu moins d'un an.
Mais il y a des... Je vais encore là, je ne veux pas jouer au docteur, mais contrôlant, autant avec ses employés, oui, possessif, autoritaire. Il y a une couple de traits hein, qui semble ressortir.
Oui, vraiment. Le prochain extrait est un petit peu plus long. Je vous avertis, il y a des détails dans le prochain extrait. C'est l'extrait qui raconte exactement...
Sur comment Chantal a été tuée.
Oui, exactement. Fait que c'est raconté à la façon d'un tueur si proche.
OK, alors petite mise en garde, s'il y a des enfants peut-être avec vous autres...
N'écoutez pas ça.
N'écoutez pas ça?
Non, écoutez pas le prochain extrait.
Mais je veux qu'on le joue.
Oui.
Parce que vous devez savoir que la commission des libérations conditionnelles, quand ils mettent Eustachio dehors, ils savent ça.
Ah ben oui, ils savent certainement.
C'est en toute connaissance de cause. Les détails sur le premier meurtre sont connus des commissaires, puis ils le mettent dehors pareil.
Oui.
Fait que je pense que là, puis ça fait des années au niveau de la famille et tout ça, bon, ça doit être encore dur, c'est toujours dur. D'ailleurs, ce meurtre-là, le plus récent à Québec, a dû faire ressortir toutes ces vieilles histoires-là. Hein, ça doit être difficile pour eux. Mais je pense qu'on peut faire jouer ça avec la mise en garde. On va écouter ça.
Oui, alors l'extrait raconte exactement comment le crime s'est produit.
D'abord romantique, la relation entre Chantal et Eustachio tourne de plus en plus au vinaigre, laissant la place à la jalousie et aux disputes. Le 20 octobre, lorsque Chantal revient du travail, Eustachio, toujours réveillé, l'attend au lit. Elle lui annonce alors qu'elle a décidé de rompre et que cette fois, elle ne reviendra pas sur sa décision. Chantal a peur de la réaction d'Eustachio à l'annonce de leur rupture. Et pour éviter toute querelle qui risquerait de réveiller ses filles, elle accepte qu'Eustachio reste à dormir. Le lendemain matin, Chantal se lève pour préparer le déjeuner à ses filles. Elle les empresse de se rendre à l'école et retourne se coucher. Dans la matinée, une violente dispute éclate entre Eustachio et Chantal. Eustachio quitte la chambre et revient avec un marteau. Il se met à cheval sur Chantal et l'emprisonne sous son poids.
Le marteau avait possiblement servi pour étrangler la victime et qu'il y avait tellement eu force qu'il avait pu casser à l'impact. Au niveau de la trachée, ce qui se trouve être un organe dans le corps qui est très solide, la trachée avait été fracturée, ce qui explique qu'il y a eu une force au niveau du cou qui était plus qu'ordinaire.
Possédé d'une haine assassine, Eustachio laisse Chantal sur le lit et s'empare d'un couteau dans la cuisine. Lorsqu'il revient dans la chambre, Eustachio assène plusieurs coups de couteau à Chantal. Eustachio est si enragé que le couteau se déforme. Mais il n'a pas terminé. Il empoigne un autre couteau et revient dans la chambre.
Il y a eu une autopsie qui a été pratiquée sur le corps de la victime par la docteure Annie Sauvageau. Et avec ces éléments d'enquête retrouvée sur la scène et puis son examen, elle, sur le corps, elle a constaté aussi plus 15 impacts au niveau du thorax et de l'abdomen qui ont été faits par les couteaux. Et puis, 13 de ces impacts-là étaient mortels.
Il est maintenant 11 heures. Et les deux filles de Chantal sont sur le point de revenir de l'école pour dîner.
Le dernier bout, il est important. Vous avez compris que tout ça, parce que Chantal travaillait de nuit en passant, j'aurais dû préciser, elle travaillait dans le bar de nuit. Alors, elle rentrait le matin, préparait ses filles pour l'école, ensuite, elle allait se coucher pour quelques heures. Là, il est rendu à peu près 11 heures, les filles vont revenir pour dîner, parce qu'ils venaient dîner à la maison. Alors, Eustachio Galaisé veut pas que les filles trouvent leur mère dans cet état-là, alors, il les a sortis pour aller dîner. Le prochain extrait, c'est comment il s'est rapporté à la police. Ça, c'est un détail que je savais pas. Eustachio a eu une vie avant Chantal, il a eu une femme avec des enfants. Et il était relativement, en tout cas, visiblement en bon terme avec son ex-femme, parce que la première personne qui est allée voir pour avouer son crime, c'est son ex-femme. Écoutez bien.
Eustachio amène alors les deux filles au restaurant. Il les laisse à l'école avant de retourner chez son ex-conjointe, à qui il confie avoir tué Chantal. Dans tous ses états, l'ex-conjointe lui suggère d'appeler l'une de ses sœurs. À son tour, cette dernière lui conseille de contacter son frère.
Alors, monsieur contacte son frère et va lui dire, regarde, je viens de commettre un délit, je viens de tuer... ma copine, là, je me demande qu'est-ce que je fais. Est-ce que je me sauve de la police ou si je me rapporte? Alors, son frère va lui dire, quand tu vas prendre tes responsabilités et tu appelles la police.
Vers 13h30, Eustachio se livre à la police et un agent vient immédiatement le mettre en état d'arrestation.
En cours de route, un monsieur a expliqué à l'agent qu'il devait faire vite parce qu'à 15h15, il y avait deux enfants qui terminaient l'école, les enfants de la victime, et qu'ils arriveraient à la maison. Et ils ne voulaient pas qu'ils voient leur mère dans cet état.
Dans les heures suivant l'arrestation d'Eustachio, la nouvelle se répand dans les médias.
Et parce que la nouvelle s'est rapidement répandue dans les médias, la suite du documentaire, si ça vous intéresse, c'est la grand-mère de Chantal Deschênes qui raconte qu'elle a vu à la télévision meurtre d'une mère de deux enfants avec la photo ou des images de la maison. Et c'est comme ça qu'elle a reconnu la maison de cette fille.
Il l'avait pas averti.
Non. Et elle l'a su à la télévision. Elle et son mari ont pris la voiture, se sont rendus sur les lieux directement.
C'est Canal D, en passant, on va mentionner, hein, qui produit la très bonne série Un tueur si proche. Et c'est disponible dans certains cas sur le web. On vous a mis le lien sur la page Facebook de Bouchard en parle.
Oui.
Alors, concernant le meurtre de Sainte-Foy, tous les détails n'ont pas été donnés. Puis c'est normal, c'est récent. Puis bon, au niveau de la protection des familles, de l'entourage, peut-être qu'on ne saura jamais exactement. Peut-être qu'au procès, ça va sortir. Mais ce qu'on a dit, ce qu'on peut dire, c'est que c'est d'une violence inouïe. Et les gens, les autorités ont dit, ça peut ressembler au premier meurtre.
Exact.
Hein, ça a été dit. Le reste, pas besoin d'aller plus loin que ça. Vous avez compris qu'il a brisé son marteau et son couteau. Parce que j'ai compris, les deux.
Oui.
Briser un marteau et un couteau sur sa victime, Chantal Deschênes. Bon. Sachant ça, vous êtes commissaire. C'est vous, là. Comment vous pouvez croire, je vous pose la question directement, que 15 ans en tôle fait de lui une personne de confiance et une bonne personne, mais on peut le relâcher? Comment? Comment tu peux croire ça? T'es au courant, t'as fait tes devoirs. T'es payé, c'est ta job, là. T'es un expert. T'as pas été nommé là pour des raisons politiques. C'est ton expérience, ton talent qui fait en sorte que t'es commissaire, hein? Et là, tu sais tout ça, t'as fait tes devoirs. Qu'est-ce qu'il a fait en 15 ans? Comment tu peux dire on remet cet individu-là non seulement en liberté, mais on lui permet de voir des femmes pour assouvir ses besoins sexuels?
Oui.
Allez-y. Racontez-moi ça. Comment vous pouvez faire ça? Ça me rentre pas dans la tête encore. Et est-ce qu'on a suivi du côté fédéral des réactions? Le ministre, le boss, la commission s'excuse, on enquête.
Il va y avoir une enquête, là. Ça, c'est ce qu'on a mentionné. Là. Il y aura une enquête par rapport à cette décision-là. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'autre chose. Là.
Comment. Il y a des trucs que tu peux. J'y crois à la réhabilitation. J'espère que tout le monde ici y croit. C'est un principe fort. Là. Moi, je pense que quelqu'un peut faire une gaffe, puis faire de la prison, puis revenir avec, je sais pas, des thérapies, changer, etc. Mais un monstre va demeurer un monstre. Même si ça y paraît pas d'en face, il y a ça en dedans de lui. Là. Oui. Il y a un démon, il y a de quoi. Je veux pas aller plus loin que ça. Par démon, là, c'est une expression. Là,
est-ce qu'un meurtrier. Comprenez. Peut être, parce que si on essaie de définir, parce que je pense que le problème, tu le poses bien. Là. Est-ce qu'un meurtrier est réhabilitable? Parce que, ben, tu sais, dans l'échelle des meurtres, il y a différentes affaires.
Je vais dire quoi? Bagarre, on parlait de toutes les affaires qui sont déjà arrivées à Québec. Là. Bagarre, c'est à Grande Allée, en arrière du Dagobert. Portier, je me souviens plus, il y avait un gars de Valcartier à un moment donné.
Oui.
Paf, un coup de poing. La victime tombe, puis la tête, la tête tombe mal, le gars est mort.
Oui,
c'est arrivé il n'y a pas longtemps.
Oui, c'est récemment,
ça. Ce gars-là est réhabilitable. Il a fait une méchante erreur. Il faut qu'il travaille sur, son, sur ses émotions, la gestion de la colère, l'impulsivité. Oui. Tu sais, il y a de quoi, là. Je le mets en dedans pour un bout. Mais je pense que quand il a donné ce coup de poing-là, c'est pas ça qu'il voulait. Je pense pas qu'il voulait tuer quelqu'un. Là. Je pense que c'est une erreur. Puis il faut qu'il paye une grosse dette envers la société. Mais je pense qu'il peut sortir dehors.
OK. Alors, je reprécise encore. Un meurtrier qui pose un geste prémédité.
Ah!
Qui tue avec une intention.
Avec sadisme. Avec, parce que dans le cas de Chantal, je parle pas de l'autre, là, l'autre, je veux pas rentrer dans les détails, mais le premier conseil, il y a du sadisme.
Il y a de l'acharnement.
Il y a de l'acharnement. Non. Moi, je pense que c'est non. Je pense qu'un tueur à gages est réhabilitable. Je vais vous surprendre, mais okay. Là, regarde, on jase. Il fait ça pour l'argent. C'est un contrat, c'est froid, il tue. C'est pas la même chose. Moi, je pense, à te peu, là. Je parle pas de Galant, là, qui en a tué, je sais pas combien, là, Gérard Galant. Pas, voyons. Je me suis. Pas Gérard Galant. C'est quoi
c'est
son prénom?
Non, c'est pas son nom. Voyons, c'est quoi le tueur à gages?
Le tueur de Donnacona.
Oui, c'est ça.
C'est Galant, son.
Mais c'est
son
Galant, mais c'est pas Gérard.
Non, c'est parce qu'on a parlé de Gérard Galant beaucoup en raison.
Non, c'est Gérald Galant.
Gérald,
ouais,
c'est ça.
C'est Gérald. Très proche, mais. Non, non, mais la nuance est importante, oui, l'attention, là. Gérald de Galant, il en a tué beaucoup. Est-ce que lui est réhabilitable? Peut-être que non. Mais quelqu'un qui fera un contrat. À un moment donné, sachant très bien que la victime, il n'y a rien de personnel, c'est dans ce milieu-là, c'est des règlements de compte. Je dis pas que c'est bien, là. Trompez-vous pas, là. Je pense qu'il est réhabilitable.
Mais un gars comme ça. C'est parce que, tu sais.
Un gars, Jean-Simon, ouais. Le détail va peut-être être anodin. Il a été capable d'aller dîner avec les enfants.
Ouais, c'est épouvantable, là.
Il a dîné avec les enfants de la victime. Ouais. Il a cassé son couteau puis son marteau dessus. Puis quelques minutes après, il est au restaurant. Avec les enfants, comme si de rien n'était. Ça veut dire qu'il est. Ça, c'est, pour moi, là, c'est psychopathe. Ça veut dire que.
Il est coupé de ses émotions.
Il n'y a pas d'émotion, non, il est clair. Complètement coupé, il est rien.
C'est clair.
Fait que, non, moi, je pense que c'est pas réhabilitable.
Tu sais, moi, je reviens tout le temps au rapport parce que ça me rentre pas dans la tête parce qu'il dit que vous avez eu plusieurs évaluations psychologiques et on démontre que vous avez des traits de personnalité narcissique, polytoxicomanie ainsi que présence probable d'éléments paranoïdes. Ils l'ont, là. Et malgré tout, ils disent votre risque de récidive est faible. Ça prend quoi pour que la commission des libérations conditionnelles croit qu'une personne a un risque de récidive élevé?
Ouais.
Alors que tu as déjà un portrait, là, la recette parfaite d'un tueur, l'as avec ce bonhomme-là.
Ouais.
Qu'est-ce que ça prend pour que la commission fasse? Non, oubliez ça, il y a un risque trop élevé pour la société. Ça, c'était correct, ça, qu'il rencontre des femmes à des objectifs sexuels avec tous ces traits-là.
Parce que l'affaire, c'est qu'il y a des profils psychologiques de tueurs qui sont établis, puis la commission, puis les experts se penchent beaucoup là-dessus. Puis ce que j'ai beaucoup lu en fin de semaine de la part d'experts, c'est qu'ils disent que c'est quand même relativement rare qu'un homme tue sa conjointe par possession, par jalousie, et s'en prend à une parfaite inconnue après. Ce gars-là, c'est ses prochaines blondes qui auraient été en danger normalement. Mais dans tous les cas, tu ne devrais pas être en liberté quand même, là. Mais les experts disent que ce profil-là tue par possession, par jalousie, des conjointes qui lui appartiennent. Pas des parfaites inconnues ou un parfait inconnu.
Comme
dans la rue.
Série,
exactement, c'est ça. C'est un profil qui... Mais ça reste dangereux pour les femmes.
De lui, on a eu ça, on va être prudent un peu, mais il y a des gens qui nous ont contactés pour dire qu'il y avait tendance à tomber en amour rapidement.
Oui,
à
absolument.
Devenir harcelant et possessif.
Oh, oui.
On a une dame qui nous a contactés pour dire qu'il a envoyé 63 roses après le premier rendez-vous. Puis qu'il l'a harcelé.
Pas après, non, première rencontre, pas première
rencontre.
Rendez-vous.
Ouais, excuse-moi,
il
des fois,
pas
le rendez-vous.
Date avec, là. Ouais,
ouais première rencontre. Ouais. T'as raison, c'est même pas une date, là.
Ouais.
On a eu ça comme témoignage. On en a eu d'autres aussi qui nous ont dit qu'il y avait tendance à donner des cadeaux puis tout ça. Fait que pour lui, là, il s'attache rapidement puis il devient possessif rapidement. Mais ça, comment ça se fait que nous autres, on est capables ici, là, à la radio, de parler de ça sans être experts et eux autres, qui sont payés 100 000 et plus, qui sont nommés là pour leurs compétences, n'ont pas vu ça? Comment ça marche, tu sais, le sénateur Boisvenu, quand il dit il est là le problème, ils sont intouchables, ils ne rendent pas de compte puis on n'est pas capable? Tout le dossier du meurtre de Chantal Deschênes devait être sur le bureau des commissaires. Nous autres, on vous a fait entendre des petits bouts du documentaire, mais eux, sais-tu quoi? Ils devaient même en savoir plus que nous. Parce qu'il y avait les évaluations, ils ont accès au dossier.
Le processus de tout ce qu'il a fait au pénitencier pendant les 15 années aussi.
Comment ils sentent, tu penses?
Ben moi, je dormirais pas. En tout cas, à leur place, je dormirais pas.
Non,
je serais incapable de dormir, personnellement, en sachant que j'ai mis un prédateur, un loup en liberté. Là. Je serais pas capable de dormir.
On les a pas entendus s'excuser. On les a pas entendus faire amende honorable. On les a, moi, j'ai rien entendu. Zéro, vous autres?
Non.
Non.
Il me semble que ça serait pas une démarche. La moindre des choses. Dire qu'ils se sont trompés.
Mais
rien,
j'ai
rien,
ça.
Rien. Ouais. Tout le monde s'entend qu'ils se sont trompés. C'est une erreur épouvantable. J'ai encore rien entendu, moi. sont encore en haut de la pyramide. Là. J'ose croire qu'effectivement, ils ont des remords. Pis je sais pas. Là, on peut... J'ai rien entendu. À date.